Des livres plein les oreilles. Salut tout le monde, que ce soit à Canal M, à CKVL, en balado ou podcast, appelez ça comme vous voulez, ou encore sur le net, n'importe quand, sur Apple Books, vous écoutez l'émission Des livres plein les oreilles, animée et réalisée pour vous par Clotilde Seille. Je voudrais commencer ça par une citation. J'ai eu dans ma vie beaucoup de richesses qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Lorsque je quitterai ce monde, je sais que je laisserai à mon peuple tant chéri une autre richesse impalpable mais réelle, celle d'un pays possible, mais tout de même d'un pays à faire. Bernard Landry, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aura marqué le Québec pendant plus de 50 ans. On lui devait bien un livre à ce passionné-là. Et c'est son ami et collaborateur aussi en politique, Jean-Yves Dutel, qui lui a rendu cet hommage. Et Martin Wattier, qui s'est fait la voix de la plume de Monsieur Dutel. Et les deux ont accepté mon invitation. On va les retrouver dans quelques minutes. Également à l'émission, vous ne parvenez pas à méditer. Essayez donc le livre audio, ça marche aussi, et notamment pour la méditation. Et puis je voudrais revenir sur la mort de Gisèle Halimi, qui nous laisse aussi un héritage qui s'écoute. Et enfin, comme chaque semaine, je vous propose des lectures audio idéales en cette période estivale. Mais d'abord, dans cette émission, un hommage à un homme par son ami. J'ai choisi pour encadrer tout ça et pour encadrer également la lecture de Martin Wattier, j'ai choisi Félix Leclerc et la musique de Philippe Glass.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et sa finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes. Alouette, oh ! Mon fils est en prison et moi je sens en moi pour la première fois dans le tréfonds de moi, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère.
Il est en campagne électorale, contre nous, déchaîné. Ils ont attaqué Jacques Laurent, là, ici Michel Morin. Là, puis là, c'est nos politiques d'investissement. Puis c'est une participation active et vicieuse à la campagne électorale. Complètement partial, puis il parle d'économie, il comprend rien, puis ses reportages sont pas équilibrés, puis Jacques Laurent, il a donné une entrevue, il a rien pris de l'entrevue, il a continué à pisser sur lui. La propagande radio-canadienne honteuse, payée par nos taxes, elle cessera un jour.
Nous venions de dire adieu à Bernard Landry, le patriote, qui était de retour dans ces lieux au bord de son magnifique Saint-Laurent. Or, son vrai prénom était Jean Bernard, pour le distinguer de son père. Toute sa vie, sa mère et les gens de Saint-Jacques-de-Montcalm vont continuer à l'appeler Jean Bernard. Pour les Québécois, il deviendra simplement Bernard. Longtemps, bien longtemps avant cette journée, sur le quai de la gare de l'Épiphanie, en 1939, au milieu des cris de « Vive le roi, vive la reine !», un petit garçon de 2 ans, dans les bras de son père, étire le cou pour mieux voir. Mais le train royal ne s'arrête pas. Il ralentit seulement. Les monarques, à l'arrière du dernier wagon, saluent. « Les bras, les miens, dit-il, franchement, je ne les ai jamais baissés depuis. Mais pour d'autres raisons. »
Je reçois Jean-Yves Dutel, Alsacien de naissance, Québécois de cœur, depuis votre arrivée ici en 1972. Jean-Yves, militant des premiers jours dès 1975 au Parti québécois et rapidement collaborateur et ami de Jean-Bernard Landry, mieux connu, comme on vient de l'entendre, sous le simple prénom de Bernard Landry, ami à la vie et à la mort. Bonjour, Monsieur Dutel.
Bonjour, madame.
Et puis, lire une bio comme celle-ci, c'est certainement aussi éplucher l'histoire, et c'est ce qu'a fait Martin Wattier, que je salue également. Bonjour, Martin.
Bonjour, bonjour.
Alors, j'aime bien dans cette émission-là déjà faire se rencontrer un auteur avec un lecteur. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Monsieur Dutel avait hâte d'entendre quelle serait la voix sur sa plume. Vous venez de l'entendre, Monsieur Dutel.
Oui, et il a... Monsieur Wattier, vous avez un peu la voix de Bernard Landry plus jeune. C'est assez magnifique. Parce que vous venez de lire, j'avais l'impression que c'est vers lui qui parlait. Et en tout cas, vous avez son rythme aussi.
Oh. Ben,
en
fait, oui.
Ce qui est drôle, Monsieur Dutel, c'est que lorsque je lisais les dialogues, les passages, j'entendais dans ma tête les différents intervenants. Donc, sans chercher à les imiter, je pense que malgré moi, je m'en inspirais et il et elle, à travers votre plume, m'inspiraient. J'ai donc tenté, je suis content que ça se ressente parce que j'ai tenté, sans tomber dans l'imitation, de respecter leur rythme et j'entendais leur voix me lire vos mots.
Ça me tirait un peu les larmes. Je suis très émotif quand il s'agit de Bernard. Ça me tire un peu les larmes. Alors je vous remercie infiniment. Et je pense que comme Chantal, sa veuve, etc., on se fera un plaisir à écouter ce que vous racontez.
Ah ben c'est content. Merci.
Alors, Jean-Yves Dutel, Bernard Landry a toujours eu l'âme d'un bâtisseur. C'est quelqu'un qui avait des talents incroyables. Et là, je vous cite hein, pour la rhétorique, pour l'éloquence, pour la culture, pour le savoir et le désir de toujours apprendre. Je voudrais vous citer en 57, vous écrivez, Monsieur Dutel, « Notre homme n'est pas un indépendantiste québécois, mais un fier Canadien français. »
Oui, exactement. C'était l'époque. Le terme québécois n'a commencé à s'imposer que vers la fin de la Révolution tranquille.
Hein. Oui.
Même pas Jean Lesage parlait encore des Canadiens français. Et c'est Pierre Bourgault qui a commencé à parler des Québécois.
Oui, parce que j'ai le souvenir, moi qui suis comme vous, française d'origine, entre autres, ma région a été libérée en grande partie par l'armée canadienne, et j'ai le souvenir de mon oncle disant « Ah bah oui, j'avais même invité à prendre un café à un Canadien français, quoi. »
Oui, vous savez, je ne sais plus si cette anecdote-là est dans le livre, parce qu'il a fallu faire des coupures, mais moi aussi dans ma vie, on m'en rend compte beaucoup plus tard avec M. Lévesque vers 1981-82, que M. Lévesque qui avait été lui dans l'armée américaine comme reporter, avait logé en Alsace chez ma tante.
Oui, mais oui, absolument. Oui. Mais oui, vous l'avez mis. C'était la tante Victorine. Hein?
Ma tante Victorine. Et c'était incroyable.
C'est incroyable, oui.
Il parlait d'où il était, plus j'avais le frisson, puis je voyais très bien où il avait été.
on a dit, je vais revenir à vous, hein, Monsieur Wattier, ne restez avec
aucun
nous
problème.
et si vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas. Hein.
D'accord.
Jean-Yves Dutelle, vous écrivez en page 75 qu'on a souvent collé à l'image de Bernard Landry l'image quasiment d'un homme de droite. Pourquoi ? Bah, remarquez, après, j'ai trouvé... Bah, allez-y, répondez d'abord, et puis j'ai trouvé une citation.
Vous savez, à ces années-là, il y a des mouvements populaires qui commençaient, et c'était bien, mais il y a toujours un peu de rhétorique, malheureusement, dans ces mouvements-là, aujourd'hui encore, et je le dis bien honnêtement. Et Bernard, il le considérait, je pense par exemple à Françoise David, il ne s'en cachait pas, mais même Louise Arel au début, hein, mais Louise a changé d'avis quand elle a commencé à travailler avec lui. Parce que à cette époque-là, c'est comme si quand on parlait d'économie, c'est comme si on était de droite, ok?
Ah oui, c'est ça.
Quand on parlait de productivité, on était automatiquement à droite.
Ouais.
Et la gauche de cette époque-là ne s'était pas encore appropriée un vocabulaire qui n'est ni de gauche ni de droite, qui est un vocabulaire de la réalité économique. Mm-hmm. Donc c'est comme ça qu'il le percevait. Alors que M. Landry était un progressiste.
Ouais.
Je ne veux pas qualifier gauche. Il était un progressiste. Et tout le temps.
Ouais.
Donc son œuvre politique le démontre, ses prises de position particulières le démontrent. Donc, je ne vais pas classer, moi. J'ai toujours dit que Bernard était un humaniste progressiste.
Ah oui, et puis lui disait, en parlant de lui et de Lucien Bouchard aussi, je crois, nous étions simplement des sociodémocrates qui favorisent un juste équilibre dans la société.
Et c'est ça la social-démocratie. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en parle plus tellement, bien qu'il y ait des retours dans quelques pays, mais la social-démocratie, c'est ça. Mmh. C'est allier les avancées sociales, la démocratie avec les outils du capitalisme. Et bien sûr, c'est reconnaître qu'on vit dans le système capitaliste, mais c'est vouloir l'amender, le changer constamment, pour que ce capitalisme-là ne soit pas sauvage, ce qu'il est encore trop souvent, malheureusement. Alors que, et c'est ce qui le distinguait et ce qui nous distinguait de ce qu'est par exemple Québec solidaire aujourd'hui, c'est-à-dire un refus de ce qu'est la société, de ce qu'est la réalité. Le rêve, c'est magnifique, mais si on veut changer les choses, il faut mettre les deux pieds, les deux mains dans la réalité, il faut se salir les mains.
Martin Wattier, je me tourne vers vous. Je voudrais vous présenter un peu. Bon, vous êtes comédien. J'espère ne pas vous choquer si je vous dis qu'on connaît quasiment plus votre voix que votre visage, parce que
vous ne me choquez absolument pas.
Parce que vous doublez énormément de grosses pointures, entre autres. Allez, très rapidement, quelques-uns qui font partie de qui font partie de votre catalogue de voix.
Dans les voix américaines plus connues que je double, je suis la voix de Jake Gyllenhaal, de Colin Farrell, de Jude Law, de James Franco, pour ne nommer que ceux-là. Mais non, vous ne me choquez absolument pas. Je vous dirais que je suis un comédien qui a fait de sa voix une spécialité. Et en fait, je pense qu'on n'a pas vu mon visage à l'écran ou sur les planches depuis bientôt 15 ans.
Bon,
parfait. Donc, ma voix est plus connue que mon visage.
Martin Wattier, vous avez lu, donc, à haute voix, pour Vues et Voix, ce livre, Bernard Landry, L'héritage d'un patriote, signé Jean-Yves Dutelle. Vous, si je vous demandais, à brûle pourpoint, qu'est-ce qui vous a le plus peut-être fasciné? Qu'est-ce que vous en retenez de ce livre-là?
En fait, j'ai réalisé que comme simple Québécois, comme quelqu'un qui n'est pas impliqué en politique, comme Québécois qui s'intéresse à la politique, j'ai réalisé que je ne connaissais pas Bernard Landry, l'homme. Et ce que j'ai lu m'a profondément touché en tout point, tant au niveau de la politique québécoise que l'homme de famille que j'ai découvert. Il y a des bouts, M. Dutelle, où votre plume m'a ému au point de ne plus être capable de continuer à
lire. C'est vrai.
Oui. Vers la fin du livre, oui. De mémoire, là, vers la fin du livre, oui. Lorsqu'il parle de son épouse, de sa maison, de sa famille, j'ai dû arrêter.
Parce que n'oublions pas, par exemple, dans la foulée de ce que vous dites, Monsieur Wathier, qu'à un moment donné, Monsieur Parizeau a voulu que Bernard Landry revienne en politique, et ça a tombé au moment où son fils Philippe vivait des grosses difficultés personnelles, et qu'à ce moment-là, Monsieur Landry a fait plutôt le choix de s'occuper de sa famille et de Philippe. C'est des choses, moi, qui m'avaient complètement échappé, hein, Monsieur Dutelle.
Dans le domaine public, mais aussi à cette époque-là que nègre à cause de la problématique de Philippe, qui aujourd'hui va très bien, à cause de cette problématique, c'est à ce moment-là qu'est née la profonde amitié entre Bernard Landry et Gilles Barry. Parce que Gilles Barry était à ce moment-là, avait ce centre pour les jeunes, et était très dédié à Philippe. Et effectivement, à cette époque-là, Bernard, je peux vous dire, c'est 24 heures sur 24 qu'il se relayait avec Lorraine pour soutenir Philippe. Et ça, il n'a pas mis beaucoup de temps à penser quand Parizeau lui a dit « revenez », c'était pour l'élection de 1989, il a dit « non,
oui, c'est ça.
Je ne peux pas ».
Je voudrais vous faire à nouveau plaisir, Jean-Yves Dutelle, en écoutant un autre extrait de ce livre lu par Martin Wathier. Juste avant, ces mots en page 39. Chez les Louveteaux, on chantait un Canadien errant, hymne très beau, très émouvant, mais dont le fameux Canadien est un Québécois. Un patriote de 1837 s'étant battu pour l'indépendance et pour la démocratie, et c'est cela précisément qui l'a fait bannir de ses foyers. Alors, je trouve que c'est une précision qui est assez intéressante. On écoute un autre extrait de Monsieur Wathier, Martin, lisant le livre Bernard Landry, L'héritage d'un patriote.
Mon grand-père était canadien. Mon père, canadien français. Je suis le premier Québécois de ma lignée, selon la définition de cette époque. Je suis fils et petit-fils de paysans. Élevé sur une ferme, dans un paysage si beau, si verdoyant, que l'amour du Québec a germé en moi comme un arbre. Saint-Jacques de Montcalm, au cœur de la Nouvelle-Acadie, compte, à l'époque, 3000 habitants, dont la vie s'organise autour de l'église, la salle paroissiale, les mouvements coopératifs et les fêtes religieuses. On a la plus belle église de la province de Québec. On a le plus beau cimetière de la province de Québec. Dans mon village, on était fiers et on n'avait pas honte de le clamer. Un village d'Acadiens, fondé à partir de 1775 par les survivants de la déportation. Le grand dérangement. Notre sujet est acadien à 100%. Par un amusant coup du sort, le premier Landry, arrivé à Port-Royal en 1671, y a épousé une demoiselle Granger. Et le père de Bernard Landry a fait exactement la même chose plus de 2 siècles et demi plus tard.
Alors, je voudrais préciser que si vous écoutez le livre audio, hein, cette musique-là n'est, j'allais dire, malheureusement pas inclue, mais moi, je m'amuse toujours un petit peu à enrober ça pour nous remettre dans une ambiance, une ambiance de l'époque. Parlant musique et chansons, il adorait la chanson. D'ailleurs, vous évoquez, Monsieur Dutelle, un moment fort plaisant qu'il a partagé avec Charles Trenet, et il disait, Bernard Landry, qu'un peuple qui oublie ses chansons, c'est un peuple qui va mourir.
Oui, c'était vrai. Bernard avait des phrases souvent très tranchées. Hein,
oui.
Et qui marquent.
Oh là, voire assassines.
Le jour où il a dit ça, ce jour-là, parce qu'on fait une fête, puis on était là, puis on sait à peine la première strophe, on ne sait jamais la deuxième strophe. Et là, lui, il les connaît toutes. Et c'est là qu'il a dit, écoutez, un peuple qui les paroles de ses chansons, il va mourir. Et
Ben, il avait le sens du verbe. Hein.
Oui.
Quand on trouve, par exemple...
Je pense que c'est fondamentalement vrai.
Oui, hein?
Je pense que c'est fondamentalement vrai. Quand on voit les peuples qui sont morts, ben, ils sont morts comme ça. Ils ont commencé à ne plus avoir leurs chansons. Les chansons sont le reflet d'une histoire.
Absolument.
D'une culture.
Ouais. Et depuis la nuit des temps, parce que les troubadours, les chansons qu'ils chantaient, en fait, c'était l'actualité qu'ils allaient colporter.
Vous savez, je suis alsacien de naissance.
Oui.
C'est ce qui s'est passé en Alsace, qui est toujours très belle, mais où il y a plus grand monde qui connaît les chansons de leur enfance qu'en alsacien. Je veux dire, c'est fini, mais c'est comme peuple, les Alsaciens se sont fondus dans le magma. Il avait raison.
Il avait raison. Alors, phrase assassine, page 124. Ah, celle-ci, je l'adore. Si nous sommes le diable, pourquoi diantre n'avez-vous pas fait ce qu'il fallait faire lorsque c'était Dieu qui gouvernait? Je ne me souviens plus dans quel contexte, mais j'imagine, Martin Wattier, que vous vous êtes régalé avec l'écriture et de Jean-Yves Dutel, mais et de Bernard Landry, qui est souvent cité dans ce livre-là.
Oui, je dois dire là-dessus, c'est parce que j'ai bénéficié de cet apport magnifique, parce que quand il m'a demandé d'écrire ce livre, il était bien sûr en vie, il est parti trop vite, parce que normalement, il devait être en vie pour la publication de ce livre-là, mais il m'a laissé, il avait des bouts écrits, il m'a tout donné ça, et donc j'ai pu intégrer assez facilement toutes sortes de choses qu'il avait lui-même écrit, plus ce qu'il a dit. J'ai presque une centaine d'heures d'enregistrement. Ouais. Et j'ai eu ce grand privilège, moi, comme le livre le montre, d'être à ses côtés tellement longtemps. Je veux dire, ma propre vie a une estampille Bernard Landry.
Ah oui, hein.
Et c'est lui mon intégration au Québec.
Oui. Et quel choc, hein, évidemment. D'ailleurs, vous en parlez très bien au moment de sa mort. Vous avez perdu aussi un grand ami. Le Québec a perdu un grand homme politique. Quel que soit d'ailleurs de quel bord on se trouvait. Je pense que tout le monde a salué.
Au funérail, écoutez, c'est passé un phénomène qu'on s'en est tous rendu compte, la famille et moi, où effectivement, une espèce de globalité à travers le Québec et intergénérationnelle, où Chantal et les enfants ont eu des témoignages incroyables, et j'étais content parce que cela se passe, parce que il aurait aimé ça, il aurait vu que il n'a pas semé en vain pas seulement l'indépendance, mais la probité en politique, l'honnêteté en politique. Bernard Landry n'a jamais accepté un sou, une scène, une bouteille de vin, une carte postale, rien, c'était rien. Alors, des hommes politiques comme ça, j'en souhaite.
D'autres, oui, bien sûr.
Oui.
Martin Wattier, justement, est-ce que depuis que vous avez lu ce livre, est-ce que votre regard sur la politique et les hommes et les femmes politiques va changer?
Est-ce qu'il va changer ou est-ce qu'il a changé? Je crois qu'il a changé pendant la lecture.
Ah oui.
J'imaginais bien qu'il y avait des dessous à la politique, mais certains m'ont fait sourire, d'autres m'ont choqué. Comme électeur, je pensais pas qu'il y avait autant quand je pense au deuxième référendum, je l'ai vécu de façon assez particulière. D'ailleurs, ce référendum, j'étais ce soir-là fait assez cocasse sur un plateau de tournage où toute l'équipe était québécoise, francophone, l'équipe technique, tous les comédiens, sauf moi, étaient des anglophones, et le réalisateur, qui comprenait absolument pas ce qui se passait, était australien. Et donc ce résultat-là est tombé. En lisant le livre, évidemment que ça m'a replongé à cette époque, et que j'ai compris l'ampleur de tout ce qui s'était tramé en dessous.
Oui.
Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui, ça a changé. C'est que j'ai compris que, ben, peut-être candidement, je pensais que nos démocraties étaient peut-être plus nettes et qu'elles le sont peut-être un peu moins qu'il n'y paraît.
À ce sujet-là, j'ai une phrase, et celle-là a été coupée dans le livre. Un de mes fils, qui aujourd'hui a 33 ans, a dit à Bernard Landry, il y a une dizaine d'années, dans le jardin, on peut parler de ça, puis avec la fougue de sa jeunesse, elle dit, Monsieur Landry, vous auriez mieux fait de poser des bombes, on serait déjà un pays. C'est terrible. Oh. C'est terrible. Et Bernard lui a répondu, lui a répondu non, un pays qui se fabrique ainsi est un pays qui implosera. Alors, c'est un démocrate dans la défaite.
Oui, absolument.
Ouais. Un démocrate se révèle plus dans la défaite que dans la victoire.
Je voudrais qu'on se souvienne ensemble, et il ne nous reste plus que quelques minutes, des grands coups, si vous me le permettez l'expression, de Bernard Landry, que moi personnellement, que j'avais eu tendance à oublier, et merci, grâce au bouquin, ça m'est revenu. La législation des unions homosexuelles, c'est lui.
Oui,
le virage technologique. C'est lui.
La
paix des braves, l'ALENA, le libre-échange, le financement des arts.
Oui, oui.
Quel héritage.
Regardez le financement des arts. Il a été un ministre des Finances, assez drôlement, un ministre des Finances un peu partout, on ne les aime pas trop. Bernard était aimé comme ministre des Finances. Et Bernard avait un équilibre, la ministre des Finances. Il ne pouvait pas, il ne voulait pas parler simplement bêtement d'économie en termes pécuniaires. Et il fallait pour lui, il fallait toujours que la culture soit là-dedans. Et il le démontrait à grande surprise souvent de premier ministre ou d'autres ministres. Il a dit un jour à sa ministre des Finances, pour ne pas la citer, quand il était premier ministre, il a dit Madame Marois. Sans la culture, comment voulez-vous développer l'économie? Expliquez-moi ça.
Absolument.
Ça qualifie l'homme. Hein?
Oui. Ben d'ailleurs, on n'a pas le temps, mais quelle ambiguïté dans ce rapport avec Mme Marois. Ça, j'aurais aimé qu'on peut-être...
C'est un peu dommage.
Oui.
Je considère moi comme militant, mais c'est aussi parce qu'il était entier, puis Mme Marois est entière. Mais...
Bien voilà.
C'est un peu dommage, il y a des rendez-vous ratés dans l'histoire.
Mais vous savez que le hasard fait bien les choses, c'est que nous avons eu ici même dans nos studios il y a quelques semaines Madame Marois qui est venue pour enregistrer son livre. Et donc j'ai retrouvé certains épisodes dans le livre de Madame Marois qu'on retrouve également dans le vôtre. Donc où à un moment donné ils ne sont pas d'accord, elle dit blanc, il dit noir ou le contraire. Et les deux le racontent très bien, ils ne se heurtent pas à ce niveau-là. Je veux dire, il n'y a pas mensonge ou vérité.
À travers tout ça, il avait un profond respect pour
moi. Moi, je pense. Et puis, elle aussi, d'ailleurs.
Oui, je crois.
Oui.
Ayant bien connu les deux, j'en suis certain.
Alors, Bernard Landry, L'héritage d'un patriote, un magnifique bouquin que je vous recommande. Je vous en recommande la lecture, mais évidemment, je vous en recommande la lecture audio, puisque c'est mon dada. Elle a été faite par Martin Wattier.
Bravo.
Et le livre, c'est Bernard Landry, L'héritage d'un patriote. Merci tellement à vous deux. Je me suis régalée à lire ce bouquin. Je me suis régalée à vous avoir en entrevue aujourd'hui.
Merci,
au revoir.
Madame. Merci beaucoup. Bravo. Et merci, M. Wattier. Merci.
Merci et bravo à vous.
Au revoir.
Bravo à vous deux. Merci.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles. Seconde partie. Ah, c'est KVL, la Canalem sur Balado, sur Apple Books, en podcast, où vous voulez. Vous écoutez donc Des livres pleins les oreilles, animé par Clotilde Sey. Dans cette seconde partie, je voulais rendre un hommage à Gisèle Halimi. Gisèle Halimi qui, toute sa vie, aura contribué à rendre aux femmes ce qui n'appartient plus aux femmes. Alors que les dénonciations d'abus pleuvent, avec pour résultat qu'encore une fois... on se méfie finalement de celles qui parlent. Pourquoi tout d'un coup parler quand on s'est tu tellement longtemps, hein? Alors on va regarder ensemble la proposition en audio de l'œuvre de Madame Halimi. Et puis dans la foulée, je vais vous faire entendre un coup de cœur musical. Oui, je sais, c'est une émission littéraire, c'est une émission qui ne concerne que les livres audio, mais quand je tombe sur quelque chose qui doit s'écouter à tout prix, après une chanson, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un livre audio mis en musique, après tout? Alors, dans la foulée, je vais vous faire entendre un coup de cœur musical. Et puis, on va découvrir la voix d'une lectrice qui s'appelle Aline Afanoukoué, qu'est la voix notamment du livre « Sorcière » de Mona Chollet et de la même Mona Chollet, la lectrice de « Beauté fatale ». Alors oui, pourquoi pas, n'attendons pas le 8 mars pour parler des femmes. Juste avant, comment se déconnecter, méditer ou lire des livres? C'est un article écrit par Xavier S. pour la RTBF Belgique, autrement dit pour la télévision publique belge, qui nous dit, ce monsieur, qu'en juillet, les magazines multiplient les listes de rattrapage, c'est-à-dire que tous les livres que vous n'avez pas eu le temps de lire le reste de l'année, eh bien là, c'est le temps de les lire pendant l'été. Et si c'était tous les jours l'été, se demande monsieur S. Lire des bouquins? Mais j'ai pas le temps. Mais tout problème a une solution et ça devrait pouvoir s'arranger. Contrairement à l'idée répandue, nous dit Monsieur S, avec la multiplication des écrans et des canaux de communication, saviez-vous qu'on lit beaucoup plus qu'auparavant? Incroyable mais vrai. Un rapport de l'Université de Californie montre que nous consommons plus de 100 000 mots par jour. 100 000 mots par jour. Mais est-ce qu'on lit utile? Se plonger dans un livre, s'immerger dans un univers, faire fonctionner son imaginaire, faire carburer, écrit M. S. son cerveau droit. Ça, c'est autre chose. Et ça s'appelle le plaisir. Alors, on n'a plus le temps pour le plaisir? On n'a pas de temps pour méditer non plus? Premier constat. Une découverte du XXe siècle nous apprend qu'un smartphone a une fonction ne pas déranger. Et pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir une fonction, ne pas déranger? Pourquoi on ne pourrait pas se mettre sur off? Et l'un des conseils absolument gratuits que nous donne M. S, c'est par exemple, si vous ne parvenez pas à lire, ou si vous ne parvenez pas à méditer, lisez donc sur un support qui ne fait rien d'autre que cela. Autrement dit, préférez le livre audio à la tablette. Le livre audio, pourquoi parce que une tablette, eh bien, il y a toujours un pam pam, un petit tweet, pam pam, un petit message, pam pam, un petit texto. Si vous lisez sur une tablette, je ne nommerai pas de nom, je ne ferai pas de pub pour ces gens-là, mais comme ça existe, ou si vous lisez un livre par les oreilles, ben vous ne serez pas dérangé. Quoique, si c'est par votre téléphone, le téléphone peut sonner si vous écoutez un livre audio. Mais enfin, par contre, si vous le téléchargez, vous allez le télécharger sur le iPad, donc vous pourrez encore peut-être être dérangé. Ah, zut! Ça brûle mon punch, parce que je me disais, dans ces cas-là, si vous utilisez un livre audio et que vous n'avez pas le temps non plus pour méditer, pourquoi ne pas méditer avec le livre audio? Vous me suivez? Faire une méditation grâce au livre audio. Ça tombe bien, nous en avons une flopée à vous proposer, enregistrée par les productions ADA, et que nous sommes heureux, nous, ici, chez Vues et Voix, de vous présenter sur catalogue livreaudio.vuesetvoix.com. Il y a des livres multiples, écartelés, des gens dont les noms ne sont plus à faire. Il y en a d'autres que moi j'ai découverts, comme M. Laurent de Backer et ses méditations pour créer sa vie. Il a le don, M. de Backer, de confondre les plus sceptiques et d'amener ceux-ci à s'adonner aux joies de la méditation. Par exemple, écoutons-le maintenant nous parler de la méditation japa.
C'est à l'automne 2006 que je découvris la méditation japa pour la première fois. Et j'aimerais vous la faire partager à présent, tant ses résultats sont spectaculaires. Je traversais alors une période assez compliquée, pour ne pas dire déprimante. Je venais de vivre une séparation brutale, j'avais dû abandonner un très bel appartement dans lequel j'habitais et travaillais, situé dans un quartier très agréable de Montréal, pour emménager dans un petit studio localisé dans un arrondissement beaucoup moins accueillant. Je n'avais plus de bureau, peu de meubles, et je me sentais seul. Un soir, alors que je traînais dans une librairie, je tombais par hasard sur un ouvrage et un enregistrement de méditation japa, me promettant de transformer mon existence en seulement quelques semaines de pratique assidue. Sceptique, mais n'ayant rien à perdre, je me suis mis à méditer 5 soirs par semaine. En moins d'un mois, j'avais rencontré l'amour. On me proposa un bureau gratuit et totalement équipé dans une clinique afin que je puisse poursuivre mes consultations. Et par-dessus tout, Une chaîne de télévision vint me demander d'animer une émission quotidienne sans que je n'aie rien demandé. Tels sont les effets de la méditation japa. Attendez-vous à accéder à une dimension qui a toujours été à vos côtés et dont vous ignoriez l'existence, et qui pourtant est la clé d'une vie sans limite, pleine de bonheur, d'amour, d'abondance et de bien-être.
Qu'est-ce qu'on attend ? Voulez-vous bien me dire ? Mais moi, je m'intéresse de plus en plus à ces livres audio-là. Et comme je vous le disais, nous en avons par dizaines maintenant qui sont disponibles sur livreaudio.vusezvoix.com. Oui, on a peut-être besoin de grandir un peu plus sur le plan spirituel, hein, sans parler de bondieuserie et d'église. Je parle simplement de spiritualité. Quand je vois ce qui est arrivé encore il y a quelques semaines, au Liban, entre autres, à Beyrouth, et que voilà, quoi, que de l'horreur que l'humain peut semer sur son... Parce que bon, là, il y a eu erreur humaine. Donc je me dis, ben, essayons d'avancer humainement, peut-être autrement, que par des décisions qui conduisent à des catastrophes comme celles qu'on a connues et que ces pauvres gens ont vécues au Liban, à Beyrouth. Bon, je referme la parenthèse et on va aller vers Gisèle Halimi. Elle nous a quittés il y a quelques semaines au lendemain de ses 93 ans. Je parle de Gisèle Halimi, maître Gisèle Halimi, puisqu'elle était avocate. Christine Mathéus, dans Le Parisien, lui rend un bel hommage et nous rappelle que le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, la criminalisation du viol, la dépénalisation de l'homosexualité, tout ça, ça faisait partie des batailles de Madame Halimi, elle qui était née dans une famille juive tunisienne en 1927 et qu'à l'époque, naître fille dans un tel cadre, c'était un peu comme une malédiction. C'est d'ailleurs ce qu'elle dira. Et dès son tout jeune âge, à seulement 10 ans déjà, cette jeune Gisèle va faire une grève de la faim. Imaginez, la petite fille refuse d'accomplir les tâches ménagères dont ses frères sont exemptés. Alors elle va faire la grève de la faim et ça a été sa première victoire parce que ses parents ont cédé. Alors Gisèle Halimi, à qui on doit tant de choses pour les femmes, elle a consacré toute sa vie à la défense, mais de causes multiples aussi, pas juste la cause des femmes. D'ailleurs, elle a sorti un livre qui s'appelait comme ça chez Grasset en 73. Elle a écrit sa propre autobiographie dans un autre bouquin paru chez Gallimard, qui portait le nom de « Le lait de l'oranger ». En 88, elle s'est exprimée dans une œuvre intitulée « Avortement, une loi en procès », parue également chez Gallimard, ainsi que dans « La nouvelle cause des femmes », parue chez Seuil en 97. Et c'est une œuvre exemplaire, hein, nous dit Madame Mathéus. Dans le Parisien. Alors je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, serait-il possible que tout cela existe en audio ? Il y a de l'audio, mais malheureusement pas tous ces livres que je viens de vous citer. En audio, j'ai trouvé Tabou. Tabou, c'est d'abord une pièce. Le viol est-il un tabou dans notre société ? 5 femmes violées, 5 archétypes de viol perpétrés aujourd'hui, 5 cas inspirés de faits réels et de personnes ayant existé. Et à tour de rôle, les 5 victimes vont répondre à un interrogatoire pour prouver leur innocence. Et à la fin de ce récit, on peut entendre la plaidoirie de Gisèle Halimi à la cour d'assises d'Aix-en-Provence le 3 mai 78. Ça, c'est disponible en audio commercial. Également, on retrouve des mots de Madame Halimi dans Voix de femme, d'hier et d'aujourd'hui pour demain, aux côtés de mots de Eve Ensler, Antoinette Fouquet ou encore Angela Davis. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai trouvé, c'est un extrait de Fritna de Gisèle Halimi. Ça va nous permettre de réentendre cette voix qui fut celle de tant de femmes dans ce livre écrit par Gisèle Halimi autour de son rapport difficile à sa mère. Fritna, un extrait.
« Ma mère ne m'aimait pas. Ne m'avait jamais aimée, me disais-je certains jours. Elle, dont je guettais le sourire, rare, et toujours adressée aux autres, la lumière noire de ses yeux de juive espagnole. Elle, dont j'admirais le maintien altier, la beauté immortalisée dans une photo accrochée au mur ou dans des habits de bédouine, ses cheveux sombres glissant jusqu'aux reins, d'immenses anneaux aux oreilles, une jarre de terre attachée au dos, tenue par une cordelette sur la tête, elle, ma mère, dont je frôlais les mains, le visage pour qu'elle me touche, m'embrasse enfin, elle, ma mère, ne m'aimait pas. Elle refusait toute étreinte, tout baiser, tout contact. Cette volupté que j'ai connue avec mes fils et que je vis avec mes petits-enfants, prendre dans ses bras l'enfant, l'étouffer de baisers, le chatouiller, le pétrir, le mordre, rire à perdre le souffle dans une galipette avec lui, elle n'en voulut pas.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnu,
celle qui n'est jamais venue,
celle qui est venue trop tard,
fille de rêve ou de hasard.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas.
Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorant.
Forte, vous me combattiez.
Faible, vous me méprisiez.
Vous m'avez aimée putain et couverte de satin.
Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue.
Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église, toute la honte dessous.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu,
l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et si l'ancêtre ou bien l'enfant,
celle qui sait d'où se défend,
c'est Gabriel ou bien Eva,
fille d'amour ou de combat.
Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps,
celle que personne n'attend.
Et c'est la moche ou bien la belle,
fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère
ou la vôtre, une sorcière comme les. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Oh là là. C'était ça le coup de cœur dont je vous parlais au tout début de cette seconde partie de l'émission Des livres pleins les oreilles. Quand j'ai découvert ça cette semaine, évidemment, c'est une chanson que je connaissais bien, Une sorcière comme les autres, chanson signée Anne Sylvestre, qui a d'ailleurs été merveilleusement reprise aussi par Pauline Julien. Ça, c'est une interprétation légèrement écourtée, alors les puristes, évidemment, grondent, mais pas moi. Parce que je trouve que l'interprétation qu'en font ces deux jeunes comédiennes, Laetitia Isambert et Nathalie Doumar, qui sont aussi au Conservatoire de musique de Montréal, je la trouve tout simplement sublime, complètement épurée. Et j'avais envie de la partager avec vous, d'autant plus que je m'en vais. Oh, j'ai de la suite dans les idées. Je m'en vais vers un livre qui s'appelle « Sorcières », un livre audio signé Mona Chollet. C'est sorti sur la plateforme et maison de production Lizzy, donc production de livres audio. Et c'est interprété, lu par Aline Afanoukoué. « Sorcières, tremblez, les sorcières reviennent », disait un slogan féministe des années 70. Image repoussoire, représentation misogyne, héritée des procès et des bûchers des grandes chasses de la Renaissance, la sorcière peut pourtant, et c'est ce qu'affirme Mona Chollet, servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Quel type de femme ? Ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé, réprimé ? C'est la question qu'elle se pose. Et ce livre audio en explore trois et examine ce qu'il en reste aujourd'hui dans nos préjugés et nos représentations. La femme indépendante, puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement visées. La femme sans enfant, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité. Et la femme âgée, devenue et restée depuis un objet d'horreur. Enfin, il sera aussi question dans ce livre de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature, une double malédiction qui reste à lever, écrit Madame Chollet. Ce livre produit par Lizzy est lu par Aline Afanoukoué, qui est une journaliste, animatrice de radio et de télévision en France, comédienne également, DJ et directrice artistique. Elle a animé de nombreuses émissions et chroniques sur l'actualité musicale ou à la radio ou à la télévision. Et on nous dit dans sa bio que, outre une incroyable culture musicale et son flair pour dénicher les talents de demain, elle s'intéresse particulièrement à la représentation des artistes noirs dans les arts du spectacle. Et depuis peu, donc, elle s'intéresse à la lecture à haute voix. Un extrait de Sorcières.
Même les sorcières inquiétantes, celles de Hansel et Gretel, ou celles de la rue Mouffetard, ou la Baba Yaga des contes russes, tapis dans son isba juché sur des pattes de poulet, m'ont toujours inspiré plus d'excitation que de répulsion. Elles fouettaient l'imagination, procuraient des frissons de frayeur délicieuses, donnaient le sens de l'aventure, ouvraient sur un autre monde. Pendant la récréation, à l'école primaire, mes camarades et moi traquions celles qui avaient élu domicile derrière les buissons de la cour. Obligés de nous en remettre à nous-mêmes, face au flegme incompréhensible du corps enseignant. La menace flirtait avec la promesse. On sentait soudain que tout était possible, et peut-être aussi que la joliesse inoffensive, la gentillesse gazouillante, n'était pas le seul destin féminin envisageable. Sans ce vertige, l'enfance aurait manqué de saveur. Mais avec Floppy le Redoux, la sorcière est définitivement devenue pour moi une figure positive. Elle était celle qui avait le dernier mot, qui faisait mordre la poussière au personnage malfaisant. Elle offrait la jouissance de la revanche sur un adversaire qui vous avait sous-estimé, un peu comme Fantômette, mais par la force de son esprit, plutôt que par ses talents de gymnaste en juste au corps. Ce qui m'arrangeait, je détestais le sport. À travers elle m'est venue l'idée qu'être une femme pouvait signifier un pouvoir supplémentaire, alors que jusque-là, une impression diffuse me suggérait que c'était plutôt le contraire. Depuis, où que je le rencontre, le mot « sorcière » aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime.
Extrait de « Sorcière » lu par Aline Afanoukoué de l'auteur Mona Chollet. Pourquoi on devrait séparer un duo qui fonctionne du même auteur et de la même lectrice? Je voudrais vous proposer maintenant « Beauté fatale », également sorti et produit par Lizzie en livre audio. La description qu'on en fait est la suivante. Soutien-gorge rembourré pour des fillettes, obsession de la minceur, banalisation de la chirurgie esthétique, prescription insistante du port de la jupe comme symbole de la libération, la tyrannie du look affirme aujourd'hui son emprise pour imposer la féminité la plus stéréotypée. Décortiquant presse féminine, discours publicitaires, blogs, séries télévisées, témoignages de mannequins et enquêtes sociologiques, Mona Chollet montre dans ce livre audio et comment les industries du complexe mode beauté travaillent à maintenir sur un mode insidieux et séduisant la logique sexiste au cœur de la sphère culturelle. La question du corps constitue bien la clé d'une avancée des droits des femmes sur tous les autres plans, de la lutte contre les violences à celle contre les inégalités du travail. C'est une nouveauté chez Lizzie. On retrouve la voix d'Aline Afanoukoué. Un extrait de « Beauté fatale » de Mona Chollet.
Les commentaires suscités par les soutiens-gorge ampliformes pour fillettes, où les mini-spas se contentaient souvent d'accuser le marketing. Cette explication nous fait penser aux blagues racistes ou misogynes dont l'auteur lance, lorsqu'il constate que son interlocuteur n'est pas vraiment plié en deux, « Oh, mais c'est de l'humour !» Or, il n'est pas innocent de prétendre faire vendre précisément avec ça. Comme il n'est pas innocent de prétendre faire rire avec ça. Mais faut-il parler d'indifférence ou d'acquiescement? Amorcer une critique de l'aliénation féminine à l'obsession des apparences fait immédiatement surgir dans les esprits le pire cauchemar des essayistes germano-pratins. La féministe américaine, char d'assaut monté sur des baskets, pointure 44, qui exhibe ses poils aux jambes, passe son temps à se couvrir la tête de cendres en dévidant d'une voix caverneuse sa litanie, victimaire, et vous intente un procès pour viol dès que vous la regardez dans les yeux sans son consentement explicite. Pas de ça chez nous. De toute façon, nous explique-t-on, pour mieux conjurer ce spectre funeste, on n'en a pas besoin, car la France, elle, a su œuvrer pour l'égalité des sexes tout en préservant le délicieux frisson des rapports de séduction. C'est à se demander comment font les Américains pour continuer à se reproduire.
C'est tellement complexe, surtout en France, le rapport homme-femme, là, mes amis, si vous saviez. On est un petit peu en retard. Alors voilà, je vous redonne le titre de ces deux livres dont on vient d'entendre des extraits. Ils sont tous les deux de Mona Chollet, on les retrouve tous les deux sur la plateforme Lizzie et ils sont tous les deux lus par Aline Afanoukoué. Thank you. voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission des livres plein les oreilles, préparée pour vous et animée pour vous par Clotilde Seil, avec en régie, comme toujours, Jean-Sébastien Laliberté, que je remercie grandement. Je voudrais remercier les auditeurs de Canal M qui nous suivent semaine après semaine, jour après jour, parce que vous le savez, on peut écouter cette émission-là, comme toutes les émissions de la programmation de Canal M, quand bon vous semble, soit en balado, soit en nous suivant simplement par Internet. Alors c'est vraiment facile, si vous cliquez Radio Canal M, là vous tombez sur nous, et si vous cliquez Des livres plein les oreilles, eh bien vous pouvez entendre de toutes sortes de façons cette émission-là que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter à chaque semaine. Un petit clin d'œil aussi aux auditeurs de CKVL qui écoutent également cette émission, et je les en remercie. Mes invités aujourd'hui étaient Martin Wattier, comédien et lecteur du livre de Jean-Yves Dutheil consacré à Bernard Landry. Bernard Landry, l'héritage d'un patriote. Je les remercie tous les deux d'avoir accepté l'invitation à cette entrevue téléphonique. Et je vais vous souhaiter, puisqu'il ne me reste plus que ça à faire, une très belle semaine. Profitez bien des livres audio qui vous sont proposés et parlez-en de ces livres audio. C'est une autre façon de lire. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut.